Bonsoir à toutes et à tous. Deux morts hier à Londres et trois blessés lors d'une attaque au couteau qualifiée de terroriste par la police londonienne. Une attaque qui nous rappelle notre vulnérabilité à trois jours du sommet de l'OTAN qui se tiendra à Londres mardi prochain. L'OTAN qui justement est en pleine crise, en pleine dissension, car elle doit se réinventer avec pour mission non plus la lutte contre l'ennemi soviétique d'hier, mais bien contre le terrorisme capable de nous frapper au couteau au cœur de nos capitales. D'où cette question pour se prémunir contre ce risque terroriste. Eh bien, faut-il aller traquer les djihadistes jusqu'aux confins du Sahel? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Londres frappée, l'OTAN sous tension ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, vous dirigez l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de « Comprendre le monde » aux éditions Armand Collin. Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire National des Arts et Métiers, vous enseignez également à New York et Shanghai, auteur des « Protecteurs, la gendarmerie nationale racontée de l'intérieur », c'est aux éditions Odile Jacob. Armelle Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24 et Isabelle Lasserre, rédactrice en chef adjointe au service étranger et correspondante diplomatique du Figaro. Pascal Boniface, on va voir ensemble la une ce matin du Daily Telegraph avec ce mot très simple, le retour de la terreur. Voilà, on le voit là-bas. La terreur dans une grande capitale européenne qui accueillera dans trois jours les plus grands dirigeants de la planète. Il y aura Emmanuel Macron, Donald Trump et Erdogan.
Retour, non, la terreur n'est jamais partie. La menace terroriste, elle est constante. Donc, y a pas, on ne peut pas dire qu'elle a été éliminée et qu'elle revient. Par ailleurs, le sommet de l'OTAN, c'est dans trois jours. Effectivement, le dispositif se met en place, mais il sera en plein effectif, pas tout de suite. Et puis, de toute façon, on ne pourra jamais mettre un policier derrière chaque citoyen qui se promène dans la rue. Et donc, ce type d'attentat peut se dérouler n'importe où, à tout moment. Il ne s'en déroule pas trop, heureusement. Mais l'empêcher, l'éviter, qu'il y ait ou non un sommet de l'OTAN, qu'il y ait ou non cette concentration, bien sûr, Londres sera quadrillé de policiers lorsque le sommet aura lieu, et la veille au soir. Mais même quadrillé de policiers, une fois encore, il y a toujours plus de gens qui se promènent que de policiers qui peuvent surveiller ces gens qui se promènent.
Et alors, Alain Bauer, ce qui est stupéfiant, c'est que cette terreur, elle est semée par un banal couteau de cuisine. Il y a un côté dérisoire dans l'outil.
Non, ils obéissent à une instruction très claire qui était celle du ministre des attentats de l'État islamique, M. Al-Adnani, qui avait dit « Prenez n'importe quoi qui vous tombe sur la main, petit 1 ». Venez vous battre pour défendre le califat. Bon, cette option est devenue extrêmement résiduelle sur le califat historique dans la zone irako-syrienne. Petit 2, attaquez-les avec n'importe quel moyen là où vous êtes. Et c'est très exactement ce qui se passe depuis désormais 4 ou 5 ans avec des véhicules, des tractopelles, des armes blanches, bref, n'importe quoi. Et donc, il n'y a aucune surprise particulière. Ceci fait partie de l'arsenal officiel. Je précise par ailleurs qu'à Londres, il y a une crise des attaques au couteau dans des règlements de compte entre bandes et gangs qui permet à Londres d'atteindre son plus haut degré d'homicide dans l'histoire des homicides de la capitale britannique. L'année 18 a été horrible, l'année 19 ne sera pas meilleure.
Voilà, mais ce ne sont pas des attaques terroristes, ce sont des règlements de compte entre gangs.
C'est un mode opératoire qui n'a rien de dérisoire, qui est un mode opératoire aujourd'hui qui est plus important que l'arme à feu, même dans les conflits purement criminels. Mais je veux souligner là que le côté dérisoire est inexact du point de vue terroriste parce qu'il est intégré dans leur mentalité et encore plus inexact à Londres parce que c'est là où il y a la plus grande opération de remontée des assassinats et des blessures par arme blanche au cours des trois dernières années. Donc c'est assez cohérent localement en tout cas.
Mais quand on voit l'outil, un banal couteau de cuisine et une ceinture d'explosifs factices, on a l'impression que tout ça est très peu préparé, très peu prémédité, qui a un côté impulsif.
Ah non, non, la fausse ceinture, elle n'est pas impulsive. Le couteau, oui, on sort avec son couteau, avec sa voiture, c'est bien sûr.
D'ailleurs, ça a été préparé, ça
ça a été préparé, parce que le lieu de commission de l'attentat n'a absolument rien à voir avec le pont. C'est-à-dire, tout le monde raconte qu'il s'est passé sur le pont. Il ne s'est rien passé sur le pont. Ça s'est passé à l'intérieur de Fishmonger Hall, où il y avait une réunion d'anciens prisonniers dans un programme de réhabilitation des prisonniers. Et les premières personnes qui ont été tuées par l'assassin, parce qu'assassin il est, terroriste on discute, mais assassin il est, sont des gens du programme de réhabilitation auquel il s'était lui-même inscrit en étant invité, notamment un jeune étudiant, M. Lewitt, qui était connu pour être très engagé dans la protection des droits des prisonniers et leur réinsertion en réhabilitation. Donc il faut revisiter cette affaire.
C'est pas un illuminé qui entend des voix, c'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi.
Il a donné une interview à la BBC en 2008 pour dire « je ne suis pas un terroriste, voilà pourquoi je ne suis pas un terroriste ». C'était posé, cohérent. Il avait été mis en détention pour 16 ans pour association de malfaiteurs en vue d'eux, mais il n'avait pas commis. Il avait été libéré au bout de 6 ans ou 7 ans. Et en fait, son interview existe sur le site de la BBC. Et l'attentat n'a pas eu lieu sur le pont. Il y a déjà eu un attentat sur le pont il y a 2 ans, mais ça n'est pas du tout la même chose. Il y a eu lieu à l'intérieur d'un centre académique où des collègues, puisque dans ce cas-là, ce sont des collègues, se sont fait assassiner pour participer à un programme de réhabilitation des prisonniers.
Mais c'est sur le pont qu'il a été arrêté.
Oui.
Armel Charrier, tout ça nous rappelle qu'on vit dans un monde dangereux et là, il va y avoir les marchés de Noël qui vont commencer. Il y a un an, d'ailleurs, le marché de Noël à Strasbourg avait été ensanglanté par un acte terroriste qui avait fait 5 morts.
Oui, absolument. En même temps, c'est certainement la nouvelle, pas définition des attentats, mais c'est vrai que vous l'avez posé dans votre question. Quand on pense attentat en France, on a l'impression d'attentats spectaculaires, d'attentats très préparés. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a eu aussi des attentats qu'on pourrait qualifier d'attentats du pauvre, c'est-à-dire des attentats qui sont beaucoup plus faciles à mener, qui sont plus aisés à se passer. Et en même temps, on est dans ce qu'on appelle tout ce qui est le risque. Maintenant, on est passé en basse intensité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des attentats qui peuvent perler de ci, de là, qui sont des actes effectivement moins préparés où il y a moins de monde. Les Israéliens, par exemple, connaissent parfaitement cette situation-là, qui est effectivement de vivre avec un risque de basse intensité, mais qui reste en fait en filigrane. Et mine de rien, quand on regarde la menace des djihadistes qui peuvent rentrer en France, c'est justement ce risque d'attentat de basse intensité qui peut avoir lieu parce qu'il peut se mettre en place. Alors la solution qu'on a trouvée en France aujourd'hui, c'est qu'on a l'opération Sentinelle qui est toujours sur place. Il y a toujours 7000 hommes aujourd'hui qui patrouillent, plus 3000 qui sont en renfort qui peuvent arriver. Ce sont des militaires. Avant, ils étaient en position statique, ils gardaient. Maintenant, ils sont arrivés à demander en fait à ce qu'ils soient de nouveau dans des patrouilles, qu'ils patrouillent sur un secteur, qu'ils patrouillent de façon aléatoire, exactement la même chose que ce qu'ils font quand ils sont en OPEX, justement pour que les terroristes ne puissent pas les repérer, justement pour qu'ils puissent dérouter potentiellement l'adversaire. Cette présence, ça rassure évidemment la politique, ça rassure la population, ça rassure au moment où il y a les marchés de Noël. C'est la période des fêtes, donc on fait appel à des réservistes pour qu'ils soient là, pour que les officiers d'actifs puissent se reposer. Parce que je vous rappelle que Sentinelle, ça demande quand même à des gens qui rentrent d'opération de s'arrêter 2 semaines et puis ensuite de repartir pour 4 mois de patrouille en France pour effectivement faire attention à la qualité de vie des Français. Donc il faut aussi en tenir compte parce qu'on l'oublie un peu. Et en fait, effectivement, toutes ces personnes-là sont totalement dévolues à notre sécurité.
Alors Isabelle Lasserre, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais cet attentat a eu lieu à Londres, où se tiendra mardi prochain le sommet de l'OTAN. Cette lutte contre le terrorisme, ce sera le sujet numéro un, ce devrait être le sujet numéro un des discussions entre ces chefs d'État qui sont censés ensemble avoir une défense commune.
Il y en aura plusieurs. D'habitude, avant Donald Trump, un sommet de l'OTAN, c'est toujours l'occasion de célébrer l'unité transatlantique. Tout est complètement préparé, tout est négocié, il n'y a jamais de surprise. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est le sommet de la désunion, c'est le sommet de toutes les tensions. Il y en a de nombreuses. Il y a la tension de Donald Trump qui maltraite ses alliés, qui remet en cause la défense collective de l'article 5, qui se retire d'un seul coup de Syrie. Il y a le problème turc, qui est un énorme problème, peut-être d'ailleurs plus important, c'est-à-dire qui est composé en deux parties.
On va en parler, voilà. Du problème turc.
Et il y a aussi le problème du terrorisme qui s'est invité de plusieurs manières depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire à la fois en Syrie, puisque en fait la Turquie a attaqué les alliés de la coalition qui lutte contre le terrorisme en Syrie, les Kurdes, et parce que les attaques terroristes sont un sujet avec lesquels un nombre de pays de l'OTAN croissant vit quasiment au quotidien.
Mais ce qui veut dire que la coopération n'est pas fameuse au moment même où l'on doit affronter ce mal commun qu'est le terrorisme.
Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Alors, les principaux partis politiques britanniques ont donc décidé de suspendre temporairement leur campagne à 15 jours des élections législatives. Il faut dire que ce matin, le Royaume-Uni s'est réveillé groggy après l'attaque au couteau qui a fait 2 morts hier en plein centre de Londres. Son auteur, un homme de 28 ans déjà condamné pour terrorisme, avait été libéré après avoir purgé seulement la moitié de sa peine. Sujet de Paul-Rémy Barjavel et Benoît Thébault.
Sur ces images amateurs, un groupe composé de policiers et de passants tente de maîtriser le terroriste. L'un des témoins s'écarte. Dans sa main, un couteau utilisé par l'assaillant. Au sol, l'homme se débat. Quelques secondes plus tard, il est abattu par les forces de l'ordre. L'attaque à l'arme blanche a eu lieu un peu avant 14h hier sur le London Bridge. Deux personnes sont mortes, trois blessées.
C'était effrayant parce qu'on a vu tout le monde fuir et courir dans tous les sens. On a tous eu peur pour notre sécurité et la seule idée qu'on a eue est de partir au plus vite et se cacher.
Quand cela arrive, vous vous dites que ça aurait pu être vous sur ce pont. Par chance, je ne vais pas déjeuner dans cette zone, mais mes amis y vont souvent.
Panique dans le centre de Londres. Toute la zone a été évacuée. Très vite, la police qualifie l'attaque d'acte terroriste.
Je peux confirmer que le dispositif attaché au corps du suspect est un dispositif explosif factice. La police continue ses recherches pour s'assurer qu'il n'y a plus aucun autre danger pour la population.
Avant l'arrivée de la police, plusieurs civils ont tenté de stopper le terroriste, à l'aide d'un extincteur notamment. Des héros salués par le maire de Londres.
Je souhaite remercier les civils qui ont risqué leur vie cet après-midi. Ils sont les meilleurs d'entre nous. Le terrorisme est un acte lâche et fourbe. Nous devons et nous resterons unis et déterminés face aux dangers terroristes.
L'auteur de l'attaque est Ousmane Khan, 28 ans. Sa résidence a été perquisitionnée aujourd'hui dans le comté de Staffordshire, au centre de l'Angleterre. Il s'agit d'un ancien prisonnier, condamné à 16 ans de réclusion pour son appartenance à un groupe terroriste qui voulait commettre un attentat à la Bourse de Londres et établir un camp d'entraînement au Pakistan. Ousmane Khan a été remis en liberté conditionnelle en décembre 2018. Il portait un bracelet électronique. Un aménagement de peine dénoncé par le Premier ministre Boris Johnson juste après une réunion de crise hier soir.
Je pense qu'il est très important que lorsque des personnes sont condamnées pour des crimes sérieux et violents, qu'elles purgent leur peine. Je pense que c'est ce que veulent les Britanniques. Et c'est quelque chose que nous avons déjà dit. Je l'ai dit depuis que je suis Premier ministre.
Un message qu'il a continué à marteler ce matin, alors qu'il se rendait sur les lieux de l'attentat. À moins de deux semaines des élections législatives, les principaux partis politiques britanniques mettent leur campagne entre parenthèses.
C'est une attaque contre nous tous. Et aujourd'hui, nous avons suspendu la campagne des travaillistes dès que nous avons su à quel point l'attaque était significative. Mais nous devons nous rappeler que nous vivons en démocratie et que ceux qui souhaitent nous faire taire n'y arriveront jamais.
C'est la troisième attaque terroriste qui touche la capitale britannique depuis 2017, alors que Londres doit accueillir mardi et mercredi le sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron et Donald Trump y sont notamment attendus.
Alors, question téléspectateur. Ces passants héroïques n'ont-ils pas fait le contraire de ce que l'on nous recommande de faire en cas d'attaque terroriste, c'est-à-dire s'échapper et se cacher, Alain Bauer ?
Alors, en France, oui. Dans tous les autres pays, il y a un élément numéro 4. En France, c'est cachez-vous, alertez, fuyez. Dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, il y a résister. Ouais. Et alors, il se trouve qu'en France, il y en a qui le font. L'homme au scooter de Nice, la femme au parasol de Marseille, les deux Américains et le Français, qu'on oublie toujours, du Thalys, ce sont ceux qui ont résisté. Alors, résister en étant blessé, résister en n'étant pas blessé, résister en sauvant des gens. On n'est pas obligé de s'affronter à main nue avec une Kalachnikov, mais l'option résistance a été omise, comme si c'était une horreur absolue que de se référer au moins au général de Gaulle, alors que dans les pays anglo-saxons, on recommande de résister, c'est une procédure. Et d'ailleurs, dans l'attaque précédente du pont, il y a deux ans, avec la voiture qui, elle, était allée de l'autre côté du pont, et ensuite il s'était répandu dans une petite ruelle où il y a des pubs, ce sont les gens qui sortaient des pubs et qui les ont poursuivis à coups de canette, alors qu'ils étaient, eux, armés de couteaux et d'armes à feu. Donc, c'est une dire que le Blitz a dû passer par là, Winston Churchill a dû laisser des éléments, mais ça n'est pas qu'en Grande-Bretagne. Nous avons aussi, entre guillemets, nos héros, puisque ce mot est super à la mode ces temps-ci.
Mais justement, la reine, d'ailleurs, a félicité, alors je cite, où est-ce que j'ai mis la phrase, les personnes courageuses qui ont risqué leur vie pour protéger autrui. Armelle Charrier, chacun se demande bah, si j'étais confronté à ça, comment je réagirais? Non, parce que c'est vrai. Et on se rend compte, curieusement, que la peur s'efface face à l'action.
En tout cas, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un effet aussi pédagogique. C'est-à-dire que je pense qu'on s'observe tous les uns les autres. Et par exemple, au tout début, quand on parlait de tous les attentats terroristes, on utilisait un terme où on nous demandait de le définir. C'est-à-dire qu'on disait « il va faire preuve de résilience ». La résilience, qu'est-ce que c'est? Alors quand on dit résilience dans un milieu militaire, tout de suite, on comprend ce que c'est. Mais quand on dit « faire preuve de résilience », c'est-à-dire, en fait, à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on résiste? Comment est-ce qu'on continue à vivre? Comment est-ce que, justement, on tient tête à l'adversaire en passant à autre chose? Et maintenant, déjà, cette pédagogie, elle est passée, en fait, quelque part. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'y met, mais en tout cas, tout le monde observe le fait qu'il y a un moment donné où il va bien falloir continuer à vivre, où si on a des valeurs à défendre, si les femmes veulent vivre comme elles ont envie de vivre, avec la liberté qui est la leur dans le monde occidental, si on veut imaginer qu'on puisse naître dans une classe sociale et ensuite atteindre une autre classe sociale parce qu'on aura eu des études, un travail, etc., il faut à un moment donné défendre ces valeurs. Et je pense qu'en fait, c'est un peu ce discours qui est en train de se mettre en place et qui fait que les uns les autres réfléchissent avec l'histoire qu'on a, avec ce qu'on peut avoir. Évidemment, il y a un risque aussi, c'est du coup d'avoir peur et d'avoir aussi d'aller rechercher sur des armes, parce qu'il y en a aussi qui s'inscrivent effectivement dans des écoles de tir qui maintenant sont débordées, juste parce qu'ils se disent, si jamais il faut que je sois opérationnel, s'il se passe quelque chose.
Alors donc la presse britannique salue ces héros, et en revanche, il y a une polémique qui naît en Grande-Bretagne, parce qu'il a été libéré à la moitié de sa peine. Il avait été condamné en 2012 parce qu'il voulait faire un attentat contre la Bourse de Londres. Il avait été condamné à 16 ans de prison. Il a été libéré au bout de 8 ans, de 6 ans même, pour bonne conduite. Et du coup, il avait un bracelet électronique. D'ailleurs, on va voir, c'est la une du Times qui revient sur cette polémique en disant finalement, on a laissé un terroriste dans la nature, un djihadiste dangereux qualifié, c'est ainsi qu'il avait été qualifié par le juge en 2012, avec un bracelet électronique. On s'interroge du coup sur ces programmes de déradicalisation. Voilà, je l'ai bien prononcé, Isabelle Lasserre.
Oui, en fait, il y a plusieurs choses dans votre question, et notamment la question de la prison. Par exemple, c'est exactement une des raisons pour lesquelles les Français sont si réticents au retour des djihadistes de Syrie. C'est que petit 1, on se radicalise en prison. Petit 2, il n'y a pas assez de place dans les prisons. Et on risque vraiment de créer des phénomènes d'extrême tension. Petit 3, dans certains pays, les lois ont été durcies en 2016 en France. Enfin, Alain Bauer en parlera mieux que moi. Mais il y a encore plusieurs pays dans lesquels les lois, en fait, n'ont pas été durcies. Et c'est vrai que les terroristes sortent, en fait, avec les remises de peine
comme
beaucoup trop
commun,
tôt. Et que, pour l'instant, aujourd'hui, quels que soient les pays dans lesquels les programmes ont été mis en place et appliqués, la déradicalisation, c'est quand même pour l'instant une vaste fumisterie, quoi. Ça ne marche pas.
Mais alors qu'est-ce qu'on en fait, Alain Bauer? On les laisse en prison 16 ans et même plus, parce qu'au fond, ils seront toujours dangereux?
Alors il y a plusieurs catégories. D'abord, celui-là n'avait rien fait du tout. C'est une association de malfaiteurs et les Anglais ont une différence par rapport aux Français, c'est qu'ils ont le droit de provoquer l'association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'ils envoient un agent provocateur qui les pousse
à... On fait un piège?
Oui.
Paf,
les Anglo-Saxons ont le droit à ça, nous, officiellement pas. Et donc, du coup, il y avait un doute sur l'engagement réel de cet individu. Par ailleurs, on n'a pas fait mieux. À Saint-Étienne-du-Rouvray, l'assassin du Père Hamel avait aussi un bracelet électronique et était toujours en liberté conditionnelle. La vraie question, elle est-ce que la rétention, c'est-à-dire l'outil qu'on utilise après une peine de prison pour conserver des gens dont la dangerosité serait établie, mot n'ayant scientifiquement parlant qu'une connotation extrêmement instable, parce qu'on sait le faire pour les prédateurs sexuels, parce que cette question-là est clairement identifiée à cause de la pulsion qui amène notamment pour les pédophiles à être dangereux, et eux-mêmes le reconnaissent eux-mêmes en disant « faites quelque chose pour moi », donc il y a un process qui est clairement identifié. La dangerosité terroriste est un sujet qu'on n'a pas réussi à traiter parce que nos modèles, c'est l'IRA ou l'ETA, des organisations politiques, et qu'on n'a toujours pas compris que l'État islamique, c'était autre chose. Mentalement, nous avons une difficulté. Deuxièmement, on ne sait pas ce que c'est que la radicalisation. Ce mot ne veut rien dire. Un radical en France, c'est un vieux monsieur à barbe blanche qui est très laïque. Et en Angleterre, un radical, c'est un militant ouvrier qui casse les machines pour défendre les droits des travailleurs. D'accord. Ce mot ne veut rien dire. Alors, quand on ne sait pas ce que c'est que la radicalisation, je ne vous raconte pas pour la déradicalisation comment c'est facile. Il y a des centaines de programmes. En fait, on découvre quand on analyse les motivations des individus eux-mêmes. Pourquoi ils y vont ? Que ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait. En général, c'est une blessure narcissique intime et personnelle qui n'a rien à voir avec le voile, la Palestine, Israël, je ne sais pas quoi.
Donc ils auraient besoin d'un psy plus que d'un...
Ah ben, nettement. Et la misère sexuelle, alors je sais, il ne faut jamais dire ça parce que ça traumatise tout le monde, mais la misère sexuelle est l'élément 1 de ce qu'eux disent de leur propre passage à l'acte. Eux, pas nous. Et donc, il y a un process qui doit être pris en considération. Ce process, il mise à considérer qu'il y a 3 modes opératoires essentiels. Le premier, c'est la vengeance de faits subis à titre individuel et personnel qui amène à se venger d'eux. Le deuxième, c'est l'identification, le fait de devenir quelqu'un. En fait, c'est de la télé-réalité pour terroristes. Enfin, je suis quelqu'un. C'est pour ça qu'on les a sur YouTube, Facebook, machin, les médias, etc. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi moi, je n'existe pas et mon mode d'existence, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la réussite, ancien monde, c'est la télé. Et donc, je vais être quelqu'un parce que je vais y avoir des likes, des viewers et je vais faire peur. Et du coup, en faisant tout ça, je vais avoir une maison, des femmes, des pas une, des femmes, ouais. Vous avez ça dans une des toutes récentes études sur le mode opératoire de...
Mais pourtant, ils savent bien qu'au bout, ce sera la prison, la mort, là, en l'occurrence...
Mais comme tous ceux qui sont les viveurs du crime, car le mode opératoire est le même, avec une courbe qui va jusqu'à 35 ans et puis qui redescend après. Et quand vous dites, mais pourquoi vous êtes arrêté, pourquoi vous êtes rentré? Soit parce qu'ils ont été arrêtés, effectivement, soit parce qu'ils sont mariés, qu'ils ont un enfant et qu'ils ont décidé de devenir respectables, honorables, bourgeois. Il n'y a aucune différence fondamentale entre le monde du crime et le monde du terreau depuis l'État islamique, car l'État islamique est le premier...
Donc on attrape cette idéologie pour réaliser tout ça. C'est ce que vous êtes en train de dire.
On devient quelqu'un. Je suis devenu quelqu'un.
Si je peux, est-ce que je peux me permettre une illustration de ce que disait Alain Bauer sur la misère sexuelle, le rapport entre misère sexuelle et
le passage à l'acte, parce qu'il est, loin, ça semble confus.
2001, Kaboul, les talibans viennent d'être battus par les États-Unis. Il y a une toute petite librairie à Kaboul qui est tenue par un type qui était de chez Massoud, donc pas les talibans. Et du jour au lendemain, il va chercher dans sa cave 30 ou 40 000 livres. Je ne sais plus quel était le titre, c'était « Tout savoir sur le sexe » ou « Comment faire l'amour à sa femme ». Il y avait 30 000 bouquins qui avaient été... il avait dû les cacher à cause des talibans. Ouais. Les bouquins ont disparu en 24 heures.
Ouais, c'est-à-dire l'énorme frustration, vous voulez dire,
24 heures.
Dans tout ce terreau. Pascal Boniface, maintenant on revient sur l'acte. Sadiq Khan, le maire de Londres, a dit que ça aurait pu être bien pire. Hein. Il a dit qu'il avait effectivement le couteau, il a constaté que c'était très peu sophistiqué, ça aurait pu être bien pire. On tremble en se disant là c'est un couteau, mais derrière on sait qu'il y a un réseau, il y a des gens organisés, il y a de l'argent, il y a un État islamique, il y a une organisation. Est-ce qu'il faut craindre un jour qu'on passe avec des armes, des outils plus dangereux? La ceinture d'explosifs était factice, mais on est avec la menace que les outils soient plus dangereux, sans vouloir se faire peur. Mais...
Oui, revenons au 13 novembre 2015. Le terroriste se fait sauter devant le Stade de France. Il avait pris le RER dans le couloir qui mène pour prendre le RER où les gens sont bloqués. Il y a des centaines de personnes, même une rame. Bah oui, vous pouvez faire des dégâts énormes parce que le couteau, c'est finalement le terroriste du pauvre. Mais avec des explosifs, et il est de plus en plus facile d'avoir des explosifs, c'est la recette est vraiment partout. Donc oui, et en fait, quelque part, quand même...
Les services secrets
il y a quand même des grands résultats parce qu'il n'y a pas, on en parle beaucoup quand il y en a, mais en fait on devrait plutôt se féliciter du faible nombre d'attentats par rapport à la facilité avec laquelle on peut en organiser. Donc en fait on est quand même très protégé. Alors il faut se dire que il n'y aura jamais de sécurité zéro parce que le terroriste peut toujours frapper, mais regardons les chiffres. On est frappé cruellement, mais il n'y a pas tant d'attentats que cela dans les sociétés occidentales.
Est-ce que cet attentat va bousculer, pour faire un tout petit peu de politique intérieure en Grande-Bretagne, les élections? Est-ce que ce thème pourrait s'inviter et changer la donne?
Généralement, quand il y a des attentats, ça sert plutôt à la droite qui est plus sécuritaire qu'à la gauche qui est plus libérale. Donc effectivement, il va dire il a été libéré, à cause de qui? Enfin, sauf que c'était son ami qui était au pouvoir, c'était son parti qui était au pouvoir à ce moment-là. Mais traditionnellement, lorsqu'il y a des problèmes d'insécurité, soit criminels, soit terroristes, la droite et la droite dure l'emportent plus que la gauche.
Alors, cette attaque, on l'a dit, intervient 3 jours seulement avant un sommet de l'OTAN qui commencera donc mardi à Londres. Donald Trump, Emmanuel Macron et Erdogan, entre autres, s'y retrouveront. Et le ton commence à monter entre Emmanuel Macron et Recep Erdogan. Ce dernier ayant déclaré à l'encontre d'Emmanuel Macron fais d'abord examiner ta propre santé, ta propre mort cérébrale, vous savez, bien sûr, au sujet des déclarations du président sur l'OTAN. Je vous propose de regarder ce sujet de Myriam Zéhar et Ilana Azinko.
L'année dernière, les sourires étaient déjà un peu crispés. Difficile pour la grande famille de l'OTAN de rester unie. Mardi, l'organisation fêtera ses 70 ans à Londres. Et cette fois encore, les sujets qui fâchent ne manquent pas. Situation en Syrie, budget ou lutte antiterroriste au Sahel. Une zone où 13 soldats français sont morts lundi dernier.
Bonjour mesdames et messieurs. Le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel me conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. Et en fonction des décisions que la France aura à prendre, une plus grande implication des alliés est évidemment quelque chose qui serait tout à fait bénéfique.
Aux côtés du président français, le patron de l'OTAN a bien reçu le message et il n'a pas tardé à donner sa réponse.
Si la France demande l'aide de l'OTAN, les alliés le prendront très au sérieux.
Emmanuel Macron lance un appel à ses alliés. Lui qui n'hésitait pas début novembre à remettre en cause l'utilité même de l'Alliance Atlantique. Dans une interview donnée à The Economist, il emploie même cette formule choc.
Ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN.
Une déclaration assumée, faite après le retrait surprise des troupes américaines au nord de la Syrie. Cette décision prise début octobre par Donald Trump a permis à la Turquie de mener une offensive militaire contre les forces kurdes. Des Kurdes, jusque-là alliés à la coalition internationale contre Daesh.
Vous les Occidentaux, vous soutenez Erdogan. Il le sait très bien. Tout le monde le laisse faire. Et nous, regardez, on en paye le prix.
Nous, on a fait la guerre contre Daesh pour le reste du monde. Mais on nous a laissé tomber. C'est pour ça que l'on proteste. Et maintenant, on appelle à l'aide pour arrêter ce massacre.
L'opération militaire turque a donc provoqué l'indignation de Paris et des Européens. Mais pour autant, Angela Merkel dénonce la vision radicale, dit-elle, du président français sur l'OTAN.
Je le dis, il est dans notre intérêt de préserver l'OTAN plus que pendant la guerre froide, ou au moins autant que pendant la guerre froide. La Turquie doit rester membre de l'OTAN et nous devons nous engager pour cela, car il est stratégiquement important pour notre alliance que la Turquie en fasse partie.
Depuis l'offensive, la Turquie et la France entretiennent des relations de plus en plus dégradées. Hier, Recep Tayyip Erdogan s'en est pris directement à Emmanuel Macron. Des propos violents qui ont choqué l'Élysée.
Que dit-il ? Que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Monsieur Macron, je te le dis depuis la Turquie et je le redirai à l'OTAN. D'abord, fais examiner ta propre mort cérébrale. Ces déclarations ne sied qu'à ceux dans ton genre qui sont en état de mort cérébrale.
Paris dénonce des insultes. L'ambassadeur de la Turquie a même été convoqué hier soir au ministère des Affaires étrangères. La rencontre entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan à Londres la semaine prochaine promet d'être musclée.
Parce qu'effectivement, les deux hommes vont se voir en tête à tête. Alors justement, question téléspectateur, allons-nous vers une rupture des relations diplomatiques avec la Turquie, Isabelle Lasserre ?
Non, je crois que c'est encore prématuré, mais cela dit, ça fait deux fois en quelques semaines que l'ambassadeur turc se fait convoquer par les autorités françaises. On ne va pas vers une rupture des relations diplomatiques parce que la Turquie est beaucoup trop importante pour l'Union européenne, parce que c'est elle qui tient le robinet migratoire. Elle est beaucoup trop importante pour l'OTAN parce que c'est le seul pays, d'abord c'est un des piliers militaires de l'Alliance, ensuite c'est le seul pays qui soit riverain de l'Irak et de la Syrie en même temps. Donc on ne va pas vers une relation diplomatique. Cela dit, la crise est ouverte et on pourrait quand même aller assez rapidement vers une sortie de l'ambiguïté en ce qui concerne les relations de la Turquie et de l'Union européenne. Les négociations sont gelées, mais on n'a jamais dit que la Turquie n'avait plus vocation à rentrer dans l'Union européenne. Ça, c'est une des évolutions qu'on pourra voir dans les semaines qui viennent.
Mais la question est, est-ce que la Turquie est de notre côté quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, Pascal Boniface?
Pas tout à fait, parce que pour la Turquie, Daesh, un problème de sécurité. La question kurde, c'est un problème existentiel, donc c'est beaucoup plus important. Et donc, si Daesh se renforce un petit peu, mais que les Kurdes, eux, sont beaucoup plus affaiblis, Ankara choisira plutôt cette option-là. Parce que la question kurde, elle est vraiment essentielle, existentielle. Et pendant très longtemps, d'ailleurs, ils ont laissé passer des choses pour Daesh, parce que leur priorité, c'était de lutter contre une éventuelle sécessionnisme kurde. Et donc là, il y a effectivement une différence de vue qui est profonde entre la Turquie et les autres pays de la coalition, les autres pays de l'OTAN. Il faut aussi rappeler que la Turquie a quand même acheté les systèmes de défense anti-aérien russes, ce qui a conduit les États-Unis à les virer du programme F-35, le nouvel avion de combat américain. C'est la première fois qu'un pays de l'OTAN achète des éléments militaires, des armes aussi importantes à la Russie, à une période où la Russie et l'OTAN ne sont pas censés être dans une relation idyllique. Donc effectivement, la Turquie joue cavalier seul, avec en plus des provocations grossières, parce que pour l'instant, à chaque fois qu'ils ont essayé d'aller un peu plus loin, il n'y a pas eu de pénalité pour la Turquie. Ouais. Enfin, le fait de ne plus être au programme F-35 en est une.
Mais on pourrait envisager de l'exclure du club ?
Bah, ça n'arrangerait rien. Et puis, disons qu'il faut distinguer la Turquie d'Erdogan quand même. C'est que exclure la Turquie de l'OTAN, c'est quelque chose qui est durable, qui est vraiment très bon.
Pour l'instant, et en je plus, crois qu'il n'y a pas de procédure surtout pour exclure
en plus,
la Turquie de
la Turquie
de
pourrait
de
demander à quitter l'OTAN.
Oui, mais, on ne peut pas l'exclure.
On peut pas l'exclure. Alors, Armelle Charrier, on en vient à la question fondamentale. Pourquoi Emmanuel Macron a dit l'OTAN est en état de mort cérébrale ? Parce que l'OTAN a été créée pour combattre l'ennemi soviétique. Il n'est plus là, l'ennemi soviétique. Donc franchement, c'est quoi l'OTAN ? Ça sert à quoi aujourd'hui ?
En fait, en plus,
est-ce qu'on peut répondre à cette question simple ?
Oui, mais en plus, là où ça devient compliqué, c'est qu'entre le moment où Emmanuel Macron pose cette question et aujourd'hui, on voit qu'en plus, la question qu'il a faite, elle a ouvert plein de tiroirs. C'est-à-dire que quand il a posé la question sur l'OTAN est-elle en mort cérébrale, la question, c'était effectivement une question de défense. Et où on se disait, est-ce que finalement, maintenant, on a besoin de cette alliance pour aller sauver l'Europe vis-à-vis des Russes ? Alors, c'était comment est-ce qu'on concevait l'Europe au milieu.
Donc on conçoit que là, les Russes sont toujours l'ennemi.
Donc on conçoit que les Russes sont toujours l'ennemi. Oui, mais le problème, c'est que la vraie question, c'est que quand on est dans l'OTAN, la menace n'est pas la même que l'on soit à l'Est ou que l'on soit à l'Ouest. La menace à l'Est, ça reste quand même les Russes.
Vous voulez dire pour les Lettons, les Polonais, etc.
Pour les pays baltes, pour les Polonais. C'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, qui va rencontrer plein de monde dans le cadre du sommet de l'OTAN, va rencontrer aussi, après le conseil qu'ils ont eu, il va rencontrer la première ministre belge parce qu'ils vont parler de souveraineté européenne. Et ensuite, il va aller rencontrer le président polonais parce qu'il va parler justement avec quelqu'un qui, lui, est dans le cadre de l'Alliance, proche des Américains et de sa défense. Et donc, je reviens, l'Europe de l'Ouest, elle est plus inquiète du terrorisme. Donc, on n'est pas sur les mêmes menaces. D'accord. Mais le tiroir en plus qui a été ouvert là, parce qu'on ne l'avait pas vu venir au départ, c'est la position turque. Et ça, c'est vraiment ce qui est très intéressant. C'est qu'entre-temps, ce qui a été monté là, c'est-à-dire une réunion avec le Premier ministre Boris Johnson, c'est-à-dire les Britanniques, avec Angela Merkel, avec le président Erdogan, tout le monde autour de la table, pour parler de quoi ? Pour parler évidemment de la question des immigrés avec, sur lesquels le chantage est fait, sur est-ce que vous laissez passer ou pas, des migrants, pardon. Ouais. L'autre question qui est effectivement les programmes d'armement qui sont assez classiques, le problème de la Syrie qui lui aussi est effectivement le rôle vis-à-vis de la Russie.
Les djihadistes que Erdogan menace de relâcher.
Et puis le dernier aussi qui est rentré, parce qu'on est quand même en ce moment, tout est en train de bouger, sur l'accord que la Turquie vient de signer avec la Libye, qui fait que du coup elle va mettre la main sur des zones maritimes en disant « je considère que j'assure la sécurité dans cette zone-là », en déniant du coup une zone maritime qui appartient à la Grèce, qui est membre de l'Europe, qui est membre de l'OTAN, et qui dit « vous avez déjà fait ce coup aux Chypriotes, vous faites n'importe quoi, parce que quand vous avez des bateaux qui font de la prospective gazière dans nos eaux territoriales, vous refusez de nous l'accorder », et la Grèce dit « c'est la même chose qui va se passer maintenant ». Donc vous voyez l'immensité des problèmes avec la Turquie qu'on vient de mettre sur la table, en soulevant juste le problème, qui est « qu'est-ce qu'on fait dans cette alliance, comment est-ce qu'on gère un partenaire qui est à la fois un adversaire adversaire, à la fois un partenaire, et dont on ne peut se dissocier.
Bon. Pascal Boniface, pour avoir une efficacité, il faut avoir une mission claire. Je repose la question, quel est l'ennemi de l'OTAN? Ça sert à quoi aujourd'hui? Ça sert à régler des tas de problèmes qu'on n'est pas capable de régler tout seul, ou il y a un objectif clair et simple?
Alors, l'ennemi, il n'y a pas d'ennemi déclaré, même si la Russie dans toutes les têtes, sauf
que la question est, est-ce que de l'ennemi soviétique, aujourd'hui, l'ennemi, c'est le terrorisme? Voilà, c'était ça.
L'OTAN n'a pas été créé, c'est pas avec des centaines de chars que vous combattez le terrorisme, c'est pas avec des avions de combat que vous combattez le terrorisme. Donc, c'est vraiment vouloir écraser une noix avec un super marteau-pilon. Donc, c'est pas du tout adapté à ce type de guerre contre le terrorisme. Et la Russie n'est pas du tout une menace équivalente à ce qu'était la menace soviétique. Et quand Macron, en fait, lance sa bombe. En fait, il dit quelque chose dont chacun est un peu conscient, mais que personne n'ose dire. Parce que vous avez un président américain qui dit lui-même que l'OTAN est obsolète et qui dit que l'Union européenne est l'ennemi, est un ennemi. Donc c'est quand même un peu contradictoire dans l'alliance dont le supposé chef vous traite comme un ennemi. Vous avez effectivement les Turcs qui combattent ceux qui ont combattu Daesh, qui est quand même un défi sécuritaire énorme pour tous les pays occidentaux, et les Américains qui se retirent sans même... Isabelle Lasserre parlait de l'article 5, mais même l'article 4 de l'OTAN, qui dit que les pays doivent se consulter lorsque leur sécurité est en jeu, les consultations et les négociations, ça ne fait pas partie du vocabulaire de Trump. Et donc, Macron a lancé, en fait, quand on lit l'interview complète dans The Economist, il dit lui-même, ce que je dis, c'est pour pas pour dans 2 ans, c'est pour dans 10 ans. Parce que les Allemands, tout parti confondu, sauf les Verts peut-être, ils sont tétanisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien conscience que ça ne marche pas l'OTAN, que c'est plus, mais ça fait 70 ans qu'ils vivent dedans et que, tout d'un coup, ils doivent sortir d'un espace dans lequel ils sont depuis 70 ans, auquel ils sont confortablement installés, et ça leur fait peur. Et ils ont un discours contradictoire qui dit en même temps, l'OTAN indispensable, et il faut préparer l'avenir, et l'avenir, c'est plutôt l'Europe, etc. Et donc, grosso modo, on sait que le vieux est un peu mort, le neuf n'est pas encore né, et donc les Allemands sont apeurés, et ils ont peur qu'en disant la vérité que l'OTAN va mal, eh bien cela aggrave le mal et cela donne un prétexte à Trump de prendre encore plus de distance. Mais Trump ou pas Trump, il va prendre ses distances, quoi que disent les Européens.
Alors c'est vrai que pour combattre le terrorisme, la France ne fait pas appel à l'OTAN, elle y va toute seule au Sahel. Alain Bauer, est-ce que c'est vrai qu'en étant présent au Sahel avec 5000 hommes, on lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'il y a un lien?
Oui, il y a un lien parce que le terrorisme, c'est les terrorismes. Nous, on est habitués aux organisations classiques, IRA, ETA, tout ça, on connaît, FLB, ARB, les Bretons, les Basques, les Corses, voilà. Mais ça n'a plus rien à voir. D'abord parce que les territoires en question ne sont pas des territoires où il y a des terroristes, ce sont des territoires où il y a des populations nomades, dans des zones frontalières qui ont été coupées à angle droit et au double décimètre qui ne correspondent à rien. Là, nous assistons à la revanche, même la vengeance de l'histoire de la géographie, c'est-à-dire tout le découpage colonial a explosé. Ça a commencé chez nous, en Yougoslavie. Un beau matin, la Yougoslavie nous a pété dans les doigts parce que les Slovènes d'un côté, les Croates de l'autre, les Serbes, et évidemment au milieu...
C'était pas le colonisateur français.
Non. Mais c'est n'importe quoi de l'après-guerre. Et donc le n'importe quoi de l'après-guerre nous a explosé à la figure. Et on a laissé faire dans un espèce de joyeux truc où le chancelier Kohl, d'ailleurs, n'est pas pour rien... François Mitterrand lui en a beaucoup voulu d'avoir reconnu la Slovénie, ça c'était facile, tout le monde était d'accord, la Croatie c'était déjà une autre histoire, et puis de l'avoir forcé à reconnaître l'explosion d'un système, c'est-à-dire quelqu'un a ouvert le congélateur, tout a commencé à fondre. Le Mali, le Niger, la zone sahélo-sahélienne, le lac Tchad, tout ça est en train de nous péter à la figure.
Mais est-ce que c'est un fantasme de se dire si on n'est pas présent, tous ces terroristes qui circulent dans des pick-up,
ce sont des tribus.
Débarqueront en Europe, couteau entre les dents.
Non. Ils vont prendre le contrôle de tous ces territoires dont les États n'existent pas, dont les directions sont aussi démocratiques qu'à peu près une bonne vieille dictature sud-américaine, pour rester gentil, et dont la légitimité est inexistante, la corruption généralisée, la pauvreté endémique, ce sont des États, échoués et faillis.
On aurait des régimes mafieux et pseudo...
Non, ils sont déjà mafieux.
Oui. Pseudo-califats...
Le vrai problème, c'est Lyoté. Lyoté expliquait déjà tout ça en disant « Ce truc-là est incontrôlable, ce qu'il faut faire, c'est créer un califat, mais pour nous, parce que c'est le seul moyen qu'on va avoir pour régler le problème. » Donc, les États en question peuvent entrer dans la main de groupes qui, du coup, deviennent terroristes parce que ça les arrange. En fait, ils sont les sous-traitants d'organisations terroristes. C'est ça qu'ils font. C'est valable. Les Algériens ont tout sous-traité. Les Algériens sont une large puissance qui dépasse très largement l'Algérie en tant que telle à cause de son histoire tiers-mondiste. Vous avez ces mêmes problèmes un peu partout. Donc, ce que nous vivons, en fait, c'est une intervention de la France sur ces territoires historiques de puissance coloniale et d'empire colonial pour stabiliser ce qu'elle a elle-même fait, une décolonisation plus ou moins réussie, ou plus ou moins ratée, avec des découpages territoriaux qui ne correspondent plus, hélas, à rien, parce que les zones tribales, les mouvements de population, le réchauffement climatique avec une augmentation des nomades, le retour de vieux trucs, l'empire de Massina, ça fait un siècle et demi qu'on n'en était plus parlé, ils sont en train de revenir et refaire des attentats terroristes massifs avec des éliminations génocidaires de populations entre les Peuls et les autres. Donc on est en train d'avoir un retour en arrière considérable. Et effectivement, la seule force d'interposition qui connaît à peu près quelque chose au sujet, c'est la France. Et comme le disait très bien Pascal tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec l'OTAN. OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Si l'Atlantique Nord va jusqu'au Mali...
Oui, alors Isabelle Lasserre, quand Emmanuel Macron dit « on est bien seul au Sahel pour combattre le terrorisme », est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Européens, dans les capitales étrangères, on n'a pas... On considère après tout que ces affaires de Sahel, c'est les affaires franco-françaises. Enfin, c'est à la France d'intervenir et pas du tout. Et ça ne concerne pas le reste de l'Europe.
Oui, je vais répondre là-dessus, mais je voudrais quand même juste dire quelque chose. C'est que si la France quitte le Sahel, on risque de voir se reconstituer très rapidement un califat, alors qu'on vient de se débarrasser du califat de l'État islamique en Syrie et en Irak, et que quand ce califat existait en Syrie, c'est de là qu'a été fomenté de nombreux attentats. En France. Donc il faut quand même voir que c'est totalement direct.
Donc il faut absolument qu'on soit aidé par les autres.
Il faut qu'on soit aidé par les autres. On l'est. Il y a à peu près 600 Européens qui nous aident. Il y a des hélicoptères britanniques. Les Estoniens sont là. Nous, on les aide dans les mesures de réassurance de l'OTAN.
Mais quand Emmanuel Macron dit on est bien seul au Sahel.
Personne ne peut combattre, parce qu'en fait, en France, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule armée de ce nom, qu'une seule armée combattante, capable d'aller au front, capable d'aller au combat avec des groupes terroristes, c'est l'armée française. Il y a aussi la britannique, mais aujourd'hui, elle est un petit peu concentrée sur son Brexit. L'armée allemande n'est absolument pas une armée combattante. Les Allemands augmentent leur budget de défense, c'est uniquement pour des questions industrielles. Quant à toutes les armées européennes, elles ont les yeux tournés vers la menace russe, et les armées italiennes et espagnoles aide, mais elles ne sont absolument pas... Voilà, on n'est pas sorti, la moitié de l'Europe n'est pas sortie de ce monde de pacifisme qui nous est tombé dessus en 1989 après la guerre froide, ce monde de bisounours où on pensait qu'on pouvait tirer éternellement les dividendes de la guerre. Il n'y a pas encore de réveil stratégique, il existe en France et c'est là que le discours d'Emmanuel Macron, à mon avis, était quand même assez fort et assez puissant, mais il n'est pas suffisant, voilà, et donc... On ne peut pas remplacer l'OTAN parce qu'il n'y a pas d'Europe stratégique.
Alors justement, vous m'amenez parfaitement à ce sujet puisque dans ce contexte très tendu, le projet d'une Europe de la défense refait surface. C'est en tous les cas le souhait d'Emmanuel Macron. Alors si nombre de pays européens comptent avant tout sur les États-Unis, on l'a dit, hein, pour assurer leur protection, les projets militaires des 27 prennent forme petit à petit. Voyez ce sujet de Pierre-Millet Bellando et Aurélie Saner.
Les soldats issus de 10 pays différents en cadence sur les Champs-Élysées. Le 14 juillet dernier, l'Europe est au cœur du défilé militaire. Ces soldats font tous partie de l'IEI, l'Initiative européenne d'intervention. Son but, créer une culture stratégique commune et mener à terme des opérations visant à protéger les intérêts européens.
On ne vient pas combler un manque de la part de l'OTAN. C'est simplement, je le redis, c'est focaliser sur le terrain, au niveau tactique, au niveau opérationnel, pour agir réellement ensemble. Voilà, par exemple, là je reviens du Mali, l'OTAN n'est pas présente au Mali. Voilà. Par contre, il y a des forces, effectivement, des forces européennes. Et donc c'est dans ce cadre-là que cette initiative... gagnera en efficacité et aussi peut-être en visibilité.
L'IEI, un projet lancé par Emmanuel Macron qui a fait de l'Europe de la défense son cheval de bataille depuis son arrivée à l'Élysée.
Moi, je crois dans un projet d'une Europe souveraine, d'une Europe puissance. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. Et on doit avoir une Europe qui se défend davantage seul et sans dépendre seulement des États-Unis et de manière plus souveraine.
Et au sein de l'IEI, les forces armées du Royaume-Uni. Le partenariat avec le deuxième budget de défense de l'Union européenne pourrait s'inscrire dans la durée, indépendamment des aléas du Brexit.
C'est très important d'avoir le Royaume-Uni à bord, parce qu'on a quand même noué une coopération avec les Britanniques, notamment avec une force d'intervention commune. Et donc, c'est un moyen de les garder au sein de la sécurité européenne, de les associer à la sécurité européenne.
Mais d'autres avancées se situent, elles, au cœur de l'Union européenne. Parmi lesquelles, la création du Fonds européen de défense, doté de 13 milliards d'euros de crédit sur 7 ans.
Que nos amis américains comprennent. L'Europe de la défense se renforce grâce à ce Fonds européen de défense qui est une véritable révolution pour l'Europe, puisque jamais jusqu'à présent, l'Europe n'avait investi un euro en faveur de la défense. Oui, nous allons développer une industrie européenne, nous allons développer une innovation européenne, des technologies européennes et également des emplois partout en Europe. Et c'est à cela que ce Fonds européen de défense va servir.
De nouveaux financements à partir de 2021 donc, et des projets communs comme cet avion de combat européen, dont la maquette a été dévoilée lors du salon du Bourget en juin dernier. Ou encore ce char franco-allemand qui devrait être opérationnel d'ici 2035. L'Europe de la défense se construit peu à peu.
Ce qui permet d'ailleurs de voir que ça avance, c'est que les Américains sont très inquiets. Les Américains, notamment, sont en train d'essayer d'attaquer le Fonds européen de défense parce qu'ils s'aperçoivent que leurs entreprises n'en profiteront pas. Et ils sont en train de s'apercevoir, en réalité, que les Européens avancent pour développer leur défense. Et d'une certaine manière, ils avancent sans eux.
Une défense collective européenne toute relative. L'année dernière encore, la Belgique a préféré acheter des avions F-35 américains plutôt que des avions de chasse de production européenne.
Justement, question téléspectateur, Trump et les Américains laisseront-ils l'Europe avoir une armée indépendante et donc en potentielle concurrence avec leurs propres forces ? Alain Bauer, comment voient-ils ça, les Américains ?
Ah, le plus mal possible, mais ils ont déjà connu l'épisode. L'épisode s'appelle De Gaulle et la sortie du commandement intégré de l'OTAN. Pas de l'OTAN, pas de l'Alliance, mais nous y sommes rentrés avec Nicolas Sarkozy, mais il y a eu un long épisode qui a permis d'ailleurs de développer un lanceur spatial indépendant, un avion indépendant, Ariane, ensuite, un avion indépendant, Airbus, enfin une chaîne d'avions, d'ailleurs, dans une coopération franco-allemande extrêmement structurée, qui continue d'ailleurs, puisque le futur Ariane, il y a plus d'investissements allemands que français pour la première fois. Et donc non, les Américains veulent bien tout ce qu'on veut, à condition qu'ils aient la clé. Ce qu'ils ont fait avec les Anglais, contrairement à une idée généralement répandue, les Anglais ne sont plus une puissance nucléaire en matière militaire.
Et attendez, comment ça, ils ont bien l'arme atomique sur laquelle ils sont souverains.
Mais il y a deux clés, une clé américaine, une clé anglaise.
C'est-à-dire qu'ils ont besoin de l'accord des États-Unis.
Ils ne peuvent pas procéder à aucun lancement sur leur sous-marin sans la clé américaine.
C'est pas qu'ils ne sont pas une puissance nucléaire, ils sont une puissance nucléaire moins autonome que la France.
Donc on n'est pas une puissance nucléaire.
Justement, Pascal Boniface, la France est une puissance nucléaire, elle en est très fière. Ça veut dire quoi une armée européenne ? Parce qu'on se dit que, est-ce que ce n'est pas au fond une armée française financée par les autres ? C'est un peu la vision qu'on aurait d'une armée européenne.
Alors c'est ce que disent les Américains aux Européens pour que ça n'avance pas. Parce qu'en disant, ne vous faites pas avoir par les Français, voilà. Ils veulent faire payer. Non, il n'y aura pas d'armée européenne. Il y aura toujours des armées nationales. Ce qu'il faut avoir, c'est une meilleure coordination. Et notamment, l'initiative européenne d'intervention, c'est quelque chose qui paraît un petit peu comme ça, mais c'est très concret. Vous savez, l'Europe, elle est née quoi ? Avec le charbon et l'acier, par des mesures concrètes. Et cette initiative européenne d'intervention permet à les armées, regardez, la coopération franco-britannique, elle passera par là, malgré le Brexit. Et c'est des choses concrètes, c'est des interventions au Mali. Ça sert effectivement, comme ça a été dit, à des Estoniens qui, normalement, ne sont pas du tout concernés par ça, d'y être. Et donc, c'est une meilleure coordination entre nos forces. Mais bien sûr, au départ, il y a plusieurs décennies, on a échoué sur la communauté européenne de défense, qui devait être une armée européenne. Les Français qui l'avaient proposé se sont dit « Oh là là, mais si on fait ça, on n'aura plus d'armée nationale. » Donc on arrête. Ouais. Et on n'est pas encore... L'Europe n'est pas une fédération. Et donc, on aura encore nos armées nationales, parce que la France veut plus de coopération, mais la France veut aussi pouvoir décider seule d'une intervention militaire, comme au Mali. Si au Mali, il avait fallu négocier avec tous les pays, on n'y serait jamais allé. Et effectivement, Tombouctou serait arrivé à Bamako, on aurait eu effectivement un califat, Bamako serait tombé aux mains des djihadistes. Donc, c'est simplement provoquer aussi une culture stratégique européenne, une culture commune. Et pour l'instant, elle n'existe pas encore, parce que les gens sont habitués à dépendre des Américains. Ils sont dans une dépendance par rapport aux Américains qui, effectivement, créent des habitudes dont il est très difficile de sortir.
Donc les armées restent nationales. On parle juste d'interopérabilité, je ne sais pas si c'est le bon terme.
Voilà.
Et c'est ça l'armée européenne, en fait. C'est se mettre d'accord pour les missions
communes.
C'est
plus pour mettre un mot, mais en fait, je trouve que c'est une erreur de parler d'armée européenne parce que c'est trop ambitieux et ce n'est pas réalisable. Donc, il faut mieux parler de souveraineté européenne, que l'Europe soit capable de faire des choses avec les Américains, si nous sommes d'accord, et sans les Américains, si les Américains ne veulent pas agir. Parce que, de plus en plus, on le voit bien avec Trump, il y a plein d'endroits où les Américains disent « Non, non, nous, ça ne nous regarde pas. »
Alors, une armée européenne avec des armes européennes, on sait que, par exemple, les Allemands hésitent. Alors, est-ce qu'ils vont acheter l'avion de chasse américain ou est-ce qu'on va faire ce fameux avion de chasse franco-allemand, là, dont on a vu un démonstrateur, mais comme vous le disiez, Alain Bauer, tout n'est pas réglé, notamment la question du moteur. Enfin bref, est-ce que là, on peut aller de l'avant sur les armes, les tanks et les avions de chasse?
Bien sûr qu'on peut aller de l'avant, mais ça demande, là encore, d'avoir une réflexion qui soit stratégique, parce que c'est une réflexion qui est à la fois politique et c'est aussi une réflexion qui est économique. On a travaillé sur plusieurs programmes européens, comme la 400M, par exemple, etc.
Un avion de transport militaire.
On s'est rendu compte, effectivement, qu'on savait faire, que ce n'est pas forcément facile, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, parce qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements, parce que du coup, vous vous retrouvez avec une partie de l'avion qui est conçue quelque part, qu'ensuite, les vis sont construites ailleurs, que l'assemblage se fait ailleurs.
Chacun a des exigences différentes.
Voilà, donc tout ça est effectivement complexe. Mais s'il y a une volonté politique et s'il y a une vraie stratégie, oui, on peut le faire. Pourquoi est-ce qu'on peut le faire ? Parce que vous avez utilisé le terme tout à l'heure de souveraineté européenne, et c'est vraiment ça qui est la clé de tout. C'est qu'aujourd'hui, quand Emmanuel Macron parle de ça, c'est de dire on a en face de nous les États-Unis et celui qui émerge, qui est la Chine, et qui émerge beaucoup plus rapidement que ce qu'on attendait. Donc finalement, l'Europe, qu'est-ce qu'elle va donner demain ? Elle risque d'être effacée politiquement, elle risque d'être effacée économiquement. Donc il faut à un moment donné qu'elle se réinvente, qu'elle existe pleinement. Et l'un des moyens d'exister pleinement, c'est effectivement d'avoir une économie forte. Et c'est aussi de prendre en considération que nos alliés américains, même si ce sont nos alliés militairement, restent avant tout des businessmen. Donc il y a un moment donné où entre un contrat et les alliés, ils préfèrent quand même la question de contrat. Donc, ils préfèrent aller traiter, effectivement, avec les Allemands parce qu'ils les tiennent aussi par rapport à tout le commerce automobile qui se met en place. Ils vont aller négocier avec les uns et avec les autres. C'est-à-dire que le jour où on aura la force d'aller dire aux pays baltes, pas de souci, on assure votre sécurité en tant que souveraineté européenne. Mais par contre, quand vous avez besoin d'avoir des frégates pour patrouiller du côté de la Russie dans la mer autour, dans ces cas-là, vous achetez des frégates françaises. Et c'est ça ce qu'il faut se dire. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque l'on utilise du matériel américain, il y a forcément, et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec les deux clés, c'est tout le fonctionnement, de toute manière, du business américain. C'est que lorsque l'on utilise du matériel américain, on dépend des Américains. Et donc forcément, par exemple, les drones, quand ils sont en phase d'atterrissage, c'est les Américains qui, à un moment donné, les prennent. La phase d'atterrissage, c'est quoi ? C'est la phase où vous avez tout le renseignement que vous avez pris pendant le vol, que vous n'avez pas au décollage, puisque vous n'avez pas le renseignement au décollage. Quand vous arrivez à l'atterrissage, vous l'avez. Et donc, si effectivement le pilotage et si tout ça est orchestré par les Américains, c'est-à-dire qu'on récupère à un moment donné cela. Et la différence avec les Français, c'est que nous, on a une industrie où on a toujours dit, quand on vend, on essaie d'être à peu près clair, c'est-à-dire qu'on vend et on ne tient pas. Voilà. On ne tient pas derrière.
Mais Isabelle Lasserre, en même temps, on comprend que ça fasse peur à beaucoup de pays européens de s'affranchir de ce bouclier américain. Enfin, les États-Unis nous protègent l'Europe depuis des décennies.
Oui,
on est en train de leur demander, maintenant, l'Amérique, c'est fini, on va se débrouiller tout seul comme des grands.
Oui, mais enfin, bon, à juste titre, pour l'instant, quelle organisation protège l'Europe et défend l'Europe ? C'est l'OTAN, c'est pas l'Europe de la défense.
C'est pour ça que c'est difficile de faire son deuil de l'OTAN.
Ben oui, mais en fait, tout le truc consiste à dire que, en fait, Emmanuel Macron, quand il utilise des expressions comme l'armée européenne, il braque la moitié des Européens, il braque aussi les Américains, parce qu'on a l'impression que, en fait, son but est de remplacer l'OTAN. Enfin, il y a quand même une solution qui est de faire en fait une défense européenne qui soit complémentaire de celle de l'OTAN. Et on sera obligé de faire ça. Moi, je crois que le diagnostic de Macron est bon quand il dit si l'Europe ne se réveille pas militairement et stratégiquement, elle va sortir de l'histoire. C'est absolument évident. Mais il ne faut pas être trop ambitieux, comme Armel le disait, parce que, par exemple, si on prend la dissuasion nucléaire, La France ne va jamais partager sa dissuasion nucléaire. Pourquoi ? Parce que les intérêts des États ne sont pas les mêmes. La perception, les menaces ne sont pas les mêmes. Les priorités ne sont pas les mêmes. Alors, on ne va pas... C'est fait partie des questions de souveraineté qu'il est absolument impossible de partager. Mais par contre, on peut avancer pas à pas, concrètement, de manière pragmatique. En revanche, il faudrait vraiment passer la... vitesse supérieure et avoir un gros coup d'accélération parce que on augmente un tout petit peu les budgets de la défense, mais c'est sans commune mesure avec ce que fait le reste du monde. C'est-à-dire le reste du monde se réarme et l'Europe soit continue à désarmer, soit se réarme un tout petit peu.
Bah, on essaye au moins de faire un tank commun, un avion de chasse commun.
Oui, mais là, on
rentre
dans un sujet
commun.
Qui n'a pas été tranché, qui ne va pas être tranché demain, qui est un sujet extrêmement important. Il va falloir trancher un jour entre les questions de diplomatie militaire et de stratégie et les questions sociales. On ne pourra plus tout faire.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Encore un terroriste relâché qui commet des agressions meurtrières. À quand une extrême sévérité partout en Europe, Alain Bauer ?
Il y a une extrême sévérité partout en Europe. Le problème, c'est que, d'abord, il n'y a pas de justice européenne. Il y a une justice par pays, aux dernières nouvelles. Et la pénalisation, y compris la pénalisation du terrorisme, le mandat d'arrêt européen sont des produits en progression. Mais le mandat d'arrêt permet d'arrêter des gens et de coopérer pour l'arrestation, pas pour le jugement. Deuxièmement, alors, les libérations conditionnelles sont un sujet compliqué, y compris en France, puisque les citoyens y participent peu ou pas, ni la défense, ni qui que ce soit, et donc personne n'est capable de dire non, ce n'est pas une bonne idée. Troisièmement, il y a un débat sur la rétention de sûreté, c'est-à-dire le fait de garder des gens dangereux à l'issue de leur peine. Alors là, ce n'est même pas la libération conditionnelle, ce n'est pas de libération du tout jusqu'au moment où une évaluation serait faite.
On peut vous garder combien de temps en plus
rétention
de votre
sûreté,
peine comme
ça jusqu'à un moment où vous cessez d'être dangereux.
Ah oui, donc à vie, alors.
Ça fait partie des options, mais même en France, la perpétuité réelle n'existe pas. Vous savez que c'est une fausse perpétuité. Donc chacun a mis des limites aux durées d'emprisonnement, aux conditions d'emprisonnement. Et donc il y a un sujet qui a été tranché en partie pour les criminels sexuels et notamment pédophiles, mais qui n'est pas tranché pour la problématique de la dangerosité. Alors dans la problématique de la dangerosité, on a 1600, je crois, terroristes ou supposés terroristes, présumés innocents, condamnés, entre deux, toutes catégories. Donc, en prison, on en libère 40 cette année, 60 l'année prochaine, je crois.
Parce qu'ils arrivent au bout de leur
peine de l'épisode peine. Précédent, c'est-à-dire de l'épisode afghan, on va dire.
Les sortants.
Afghan, bosniaque, voilà. Donc ce sont des sortants. Dedans, il va y avoir trois catégories. Les ils feront plus jamais rien, comme ça arrive. Les traumatisés, anciens combattants, les traumatisés qui ne feront plus jamais rien. Les anciens combattants qui ont ni honte, mais qui n'ont pas envie d'y retourner. Et puis ceux qui ont envie d'y retourner. Et la plupart de ceux-là, paradoxalement, comme les fameux revenants,
qui ont envie d'y retourner,
envie d'y retourner là-bas. Parce que c'est là-bas que ça se passe. Alors là-bas étant...
Mais comme il n'y a plus rien là-bas...
Ça peut être le Niger, le Libye...
Tout ça est une illusion.
Mais est-ce qu'il y en a qui ont envie de passer à l'acte en France et qu'on surveillerait ?
Les territoires d'abord tribaux. L'État islamique était une illusion administrative. La réalité physique n'a rien changé. Il y avait 55 000 personnes qui travaillaient pour l'État islamique de manière militaire. Ils n'ont pas tous disparu. La structure visible a disparu. Ouais. Le reste est là.
Le drapeau.
Après, le patch, tout ça. Donc, il y a l'Afghanistan, il y a les Philippines. Désormais, il y a la Tanzanie. Il y a des développements inattendus dans
Niger,
des endroits...
Niger, Burkina Faso.
La zone sahélo-sahélienne. Ouais. Enfin, on a des développements inattendus. Le lac Tchad, au sens générique du terme, on a des petits sujets. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et de ce point de vue-là, le renseignement fait plutôt bien son travail, puisqu'on est passé de 5 opérations antiterroristes préventives. On ne cherche pas le terroriste après, parce que c'est déjà un échec, mais avant 2016, à plus de 60, donc ce qui meuble beaucoup nos prisons. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait en prison ? Vous avez deux sujets, on les met au milieu de tout le monde et ils arrivent à se développer, on les met ensemble et ils renforcent leurs convictions. On ne sait pas faire, c'est le sujet des radicalisations depuis tout à l'heure. Il y a un vrai débat et aujourd'hui, on n'a aucun système de déradicalisation qui fonctionne, sauf un, absolument inadaptable en France, qui vise à resalafiser les gens en leur expliquant que le cinquième djihad, le djihad de la vengeance, de l'épée, du sang, de la mort et de la terreur, c'est pas bien, il faut revenir au premier, un djihad quiétiste, de la force sur soi-même, ça, il faut être dans un état totalement
quiétiste,
islamique.
Donc totalement pacifique, etc.
Oui, c'est-à-dire on se combat soi-même dans son coin. Mais même ça, on n'est pas sûr que ça marche vraiment bien. On nous dit que ça marche.
Autre question, alors l'assaillant faisait-il partie des invités à la conférence organisée par l'Université de Cambridge sur la réhabilitation des prisonniers ?
Il s'était invité, il s'est inscrit, il est arrivé, il faisait partie du programme et il a tué d'ailleurs un des animateurs du programme, un jeune étudiant.
Donc il y avait des portiques de sécurité, il est passé avec son couteau.
Alors, Portique Security, je ne sais pas, c'est un espace universitaire. En général, ils ne sont pas aussi développés que ça. Même si à Londres, ça se fait beaucoup. La ceinture, il aurait pu passer sans problème, parce qu'elle est fausse.
Alors,
le couteau, c'est une question qui est en train d'être posée par Scotland Yard. Donc, on saura ça dans les jours qui viennent.
Pascal Boniface, c'est en insultant les dirigeants européens, dont Macron, qu'Erdogan et les Turcs veulent entrer dans l'Union européenne. Est-ce qu'ils l'espèrent toujours ou est-ce qu'ils d'ailleurs ils n'ont pas énormément de ressentiment vis-à-vis de cette entrée qu'on leur refuse ?
Ils ne l'espèrent plus parce que on a claqué la porte de l'Union européenne au nez de la Turquie, ils le savent très bien. Donc effectivement, c'est aussi une façon pour Erdogan de se venger et de dire aux Turcs qu'il assoit un peu sa crédibilité personnelle en insultant Macron. Il dit aux Turcs, regardez, je n'ai pas peur de me venger et ces Français qui nous ont claqué la porte au nez, eh bien voilà de quel bois on se chauffe. Donc il fait de la gestion à des fins de politique intérieure.
D'ailleurs, on reproche beaucoup à Emmanuel Macron aussi d'avoir claqué la porte au nez de la Macédoine et de l'Albanie qui souhaitent entrer dans l'Union européenne. Est-ce qu'on mesure mal le ressentiment qu'on crée au sein des peuples quand on leur dit non, vous ne pouvez pas entrer dans l'Union européenne,
oui,
alors que vous pouvez prétendre y entrer ?
Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est temps d'élargir encore l'Union européenne par rapport aux difficultés ? C'est vrai qu'on a 28 commissaires, c'est beaucoup trop, ouais. Et ce n'est pas la peine d'en avoir deux de plus. Et donc, c'est des pays qui, par ailleurs, en termes économiques et en termes de gestion, ne sont pas tout à fait aux normes européennes pour l'instant.
Tous nos voisins européens disent mais si, il faut les accueillir.
Il n'y a
que Emmanuel Macron qui.
Oui, parce qu'il n'y a que lui. Peut-être qu'il a le courage de dire la vérité, parce que c'est toujours plus facile de dire « nous, on voudrait bien, mais c'est les Français qui ne veulent pas ». Dans l'état actuel, je pense qu'il faut faire une pause dans les élargissements, sauf peut-être à la guerre de la Serbie qui a traité injustement contre la Croatie. Mais sinon, il faut d'abord modifier les institutions européennes pour les rendre plus opératoires. On les a un peu modifiées, mais pas suffisamment. On est quand même passé de 6 à 28. Au début, deux commissaires par pays, ça allait. Maintenant, il y en a un par pays. Et donc, vous avez... je veux dire, c'est une inflation, ce n'est pas une saine gestion d'un exécutif européen.
Ça fait des instituts paralysés, oui. Après les récents propos insultants d'Erdogan envers Macron, comment ont réagi les autres alliés de l'OTAN ? C'est vrai que si on commence à s'insulter entre partenaires de l'OTAN, puisqu'on est censé être des alliés, non ?
C'est vrai qu'il y a eu plus de réactions lorsque Bolsonaro a insulté Macron et son épouse que là. Et on a l'impression, effectivement, on aurait pu entendre un peu plus de protestations de la part des Allemands, des autres, disant « non, c'est pas comme cela ». Et finalement, ça a été courage, fuyons.
Donc c'est Erdogan qui a dit « examine ta propre mort cérébrale », Emmanuel Macron, le tutoyant.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une réunion à 4 à Londres, hein, parce qu'il va y avoir... Mais c'est là où on voit les faiblesses, effectivement, parce que Angela Merkel, quelle est sa marge de manœuvre vis-à-vis de la Turquie ? Sa marge de manœuvre, elle est limitée, parce qu'il faut se rappeler qu'elle a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de migrants turcs qui sont maintenant... qui sont maintenant chez elle. Donc, du coup, ça fait effectivement un effet de levier. Que je vous rappelle que lorsqu'il y avait eu des décisions qui ont été prises sur la Turquie, contre lequel était Erdogan, il y a une capacité aussi, à un moment donné, d'amener les uns et les autres à manifester. Erdogan représente aussi un courant qui est le courant des frères musulmans, qui, du coup, est assez disséminé dans certains endroits, dont en France, d'ailleurs. Donc, ça veut dire que, du coup, il y a des capacités aussi d'attention à lui. C'était plus facile de réagir par rapport à Bolsonaro, parce que Bolsonaro, c'est le Brésil, c'est loin, nos liens sont moins prononcés. Et donc là,
c'est plus facile d'être en désaccord.
Je crois que surtout, tout le monde veut essayer de rétablir un consensus et de calmer le jeu avant le sommet de l'OTAN. Sinon, ça va être une foire d'empoigne.
Alors, on ne peut plus compter sur les États-Unis ni sur l'OTAN, trop frileuse et incapable d'assumer ses responsabilités. Alors, que faire ? La tentation, c'est chacun dans son coin.
Non, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne, c'est effectivement une plus grande coopération européenne pour que l'Europe soit adulte et assure sa propre sécurité.
La France a-t-elle besoin de l'OTAN pour assurer sa défense ?
Non.
Elle a réussi beaucoup d'accords bilatéraux dont on ne parle pas, qui sont des vraies réussites. Lancaster House avec les Anglais, l'affaire de l'avion avec les Allemands. On patine sur le sujet le plus important, le drone.
D'accord.
Parce que l'avion, c'est le passé, le drone, c'est le futur. Évidemment, on a réussi l'avion, mais on n'a pas réussi le drone. Il y a plein de sujets.
Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. Demain, c'est politique. Karim Rissouli recevra Christine Ockrent et Raphaël Glucksmann. Merci de votre fidélité. À suivre, c'est l'hebdo.